France Culture.
Et les midis reprennent la route à 13h. La metteuse en scène Lorraine de Sagazan sera mon invitée. Mais d'abord, on retrouve Marie Sorbier pour le Point Culture. Bonjour.
Bonjour à tous. Je vous emmène aujourd'hui à Carpentras, dans le Vaucluse, où l'on peut visiter depuis plus d'un an un lieu historique unique en France. Classé monument historique en 1862, l'édifice de plus de 10 000 mètres carrés est par sa taille le second bâtiment classé du Vaucluse après le Palais des Papes d'Avignon. En projet depuis plus de 15 ans, cette bibliothèque-musée qui a été léguée à la ville par Monseigneur d'Inguimbert, remarquable par la qualité et la quantité de son fonds comme par la majesté de son bâtiment, accueille désormais lecteurs et visiteurs pour une plongée immersive dans l'érudition.
Je m'appelle Jean-Yves Baudouy, je suis directeur de la bibliothèque musée Inguimbertine de Carpentras.
Alors nous nous y trouvons à Carpentras, on vient de faire la visite de ce lieu. Ce qui frappe, c'est d'abord l'immensité de cet espace. C'était avant un hôpital, c'est aujourd'hui un lieu dédié. Alors il y a beaucoup de choses dans ce lieu. Il y a une bibliothèque là où nous nous trouvons de lecture publique, il y a un fonds de bibliothèque, il y a un musée. Vous appelez ça une bibliothèque-musée. Est-ce que peut-être vous pourriez nous présenter ce lieu en quelques phrases ?
Ben effectivement, c'est un lieu assez original, doublement original parce qu'il est aujourd'hui unique dans le paysage culturel français, et il est original parce qu'il a gardé sa conception d'origine qui considérait au cœur du XVIIIe siècle que la transmission du savoir passait par l'écrit et par l'image, et donc son fondateur, D'Inguimbert, qui était évêque de cette ville, a réuni une collection à la fois de livres mais aussi d'images, de tableaux, d'estampes, d'objets scientifiques, ethnologiques, etc., archéologiques. Et c'est en 2009 que la ville décide le transfert, elle a racheté l'Hôtel Dieu, l'hôpital, c'était l'hôpital public de Carpentras, il a été actif en activité jusqu'à 2002. La ville le rachète et décide d'y transférer la bibliothèque musée Inguimbertine, voilà, dans ces vastes espaces. Et donc c'est en 2009 que la ville décide le redéploiement des collections de l'Inguimbertine à l'Hôtel Dieu, et pour en faire véritablement un lieu adapté aux usages du 21e siècle, un lieu et des services culturels adaptés aux attentes des publics du 21e siècle, donc avec une bibliothèque de lecture publique où on trouve tout ce qu'on peut attendre aujourd'hui en termes d'ouvrages écrits, mais aussi de ressources numériques, de jeux vidéo, et après une collection patrimoniale qui est déployée de manière assez, j'espère, immersive dans cet univers d'une bibliothèque du 18e siècle, avec tout son parcours historique et artistique qui va avec.
Quel type d'ouvrage on trouve par exemple dans cette bibliothèque ?
Alors, ce qu'en fait l'essence et la particularité sont les manuscrits médiévaux enluminés. Donc on en conserve à peu près 300, plus de 300. C'est une collection assez conséquente. C'est l'équivalent de ce qu'on conserve à la ville de Marseille. Nous, on est une petite ville d'un peu plus de 30 000 habitants. Voilà, donc c'est une collection assez extraordinaire. Il y a des incunables aussi, ces premiers livres imprimés entre le milieu du 15e et 1501. Qui ont toutes les caractéristiques du manuscrit, en fait. Et on en conserve à peu près 220. C'est une des plus importantes collections publiques françaises. Et après, il y a des imprimés relativement rares aussi. Je ne sais pas que citer. On a plusieurs, mais par exemple, c'est l'Atlas de Waldseemüller, une édition strasbourgeoise des années 1510, qui pour la première fois va représenter le continent américain, le nouveau monde.
Alors vous l'avez dit, Carpentras, c'est une petite ville, c'est à peu près 30 000 habitants. Ici, c'est un grand lieu culturel. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'échelle qui se pose ?
Effectivement, on ne s'attend pas, je pense, à découvrir ce lieu à Carpentras. On l'imagine peut-être dans des grandes capitales régionales, peut-être pas à Carpentras. C'est lié à l'histoire. Déjà, Carpentras était capitale d'un petit état pontifical de 1274 à 1791. C'était voilà, le comte à Venessin. Et c'est lié effectivement à la personnalité de D'Inguimbert, qui était un personnage qui a une histoire assez fabuleuse, qui part 26 ans de sa vie en Italie. Il travaille dans l'entourage des papes, notamment de Clément XII, et il va recevoir d'importants bénéfices, à la fois honorifiques et rémunérateurs. Et lorsqu'il revient à Carpentras en 1735, il garde ses revenus qu'il va mettre au service de ses concitoyens en fondant à la fois l'hôpital de Carpentras, qui est hors échelle, c'est le deuxième plus grand monument du département après le Palais des Papes d'Avignon, monument historique, et cette bibliothèque assez fabuleuse où aujourd'hui on conserve plus de 60 000 ouvrages anciens. Je vous parlais de plus de 3 000 manuscrits, dont 300 médiévaux enluminés, etc., etc., 1200 tableaux, à peu près 40 000 documents d'art graphique, dessins, estampes, photographies anciennes, et j'en passe.
Alors c'est un lieu qui a ouvert il y a quelques mois. Comment le public local et même au-delà s'est approprié ce lieu ? Est-ce que vous avez l'impression que les Carpentraciens reviennent à l'Hôtel-Dieu ?
Alors oui, ils reviennent parce qu'il y a déjà un service public de lecture publique qui est gratuit. Et après, ils viennent aussi dans la partie patrimoniale, exposition permanente, ils y viennent, ils y reviennent. On a plus de 600 abonnés, par exemple, que pour la partie musée. Il y en a 9000 à la bibliothèque, 600 pour la partie musée. Et après, on reçoit aussi un public extérieur, bien sûr, et qui, je pense... est surpris de ce qu'il découvre. Il ne s'attend pas. On a beau lui annoncer que c'est exceptionnel, je crois qu'il ne nous croit pas lorsqu'on est carpentracien que l'on dit ça. Et lorsqu'il vient, le retour que ce public nous fait, c'est qu'effectivement, il ne s'attendait pas à découvrir la qualité et l'ampleur de cette collection et de ce bâtiment.
Et alors, qui sont les grands peintres que l'on peut découvrir dans cette bibliothèque-musée, Marie ?
Eh bien, on y retrouve Hyacinthe Rigaud, Jules Laurens, des peintres du comte à Venaissin, bien sûr, et on y retrouve aussi le célèbre portraitiste Joseph Duplessis. Alors, si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez forcément au moins l'une de ses œuvres.
On peut parler de son autoportrait, en fait, qu'il peint en 1780, où on le voit être très souriant, très satisfait de son travail. Et donc, il excellait dans le rendu des carnations. Vous regardez son visage, vous regardez à la fois son sourire, ses joues très, très colorées, son regard très vif. Voilà. Donc, tout dans cette composition révèle le talent de Duplessis. Et surtout, après, on peut remarquer aussi la qualité du rendu des étoffes, des soieries, vous voyez, cette brillance... et aussi des fourrures sur le col et la dentelle de sa cravate, si on peut dire, et de ce foulard, qui est quand même assez remarquablement retranscrit.
Alors pourquoi avoir voulu consacrer une grande exposition à Duplessis ? Peut-être vous pourriez nous le présenter en quelques mots et nous dire en quoi son œuvre est importante.
Duplessis est né à Carpentras, donc en 1725. On va fêter en fait cette année le 300e anniversaire de sa naissance. Et c'est un artiste qui a quand même eu un destin assez remarquable là encore. Il se spécialise dans l'art du portrait et il va exceller dans cet art du portrait. Il va être considéré comme le meilleur portraitiste du royaume dans les années 1770. Et il réalise des portraits assez fameux, de personnalités en tout cas fameuses. C'est lui qui reçoit la commande du portrait en pied officiel de Louis XVI, et qui réalise aussi le portrait en buste du nouveau souverain. Il a réalisé aussi des portraits de toute la cour, de la famille royale, notamment de Marie-Antoinette lorsqu'elle était dauphine. C'est un portrait avorté qui n'aboutit pas. On a les esquisses à Versailles qui sont quand même de qualité. Et il réalise aussi, surtout en 1779, le portrait de Benjamin Franklin. Il en réalisera deux versions lors du séjour de l'ambassadeur, on va dire, d'Amérique, des États-Unis d'Amérique en France, pour plaider l'aide française dans la guerre d'indépendance. Duplessis va réaliser deux portraits de Franklin qui sont aujourd'hui aux États-Unis, à Washington, l'autre au Metropolitan Museum de New York, et qui sont depuis 1929 reproduits sur les billets de $100. C'est la petite anecdote qui fait dire que Duplessis est un des artistes français, en tout cas carpentraciens, le plus diffusé dans le monde au travers de ces billets de $100.
Vous pouvez nous rappeler les dates de l'exposition ?
Ce sera du 14 juin au 28 septembre.
Merci beaucoup.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. Il est 13h et vous êtes sur France Culture.